tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et c'est tout. Et oui, car ATH bosse, Morren profite de la fin de ses vacances, Pixel a disparu. Dwayne, je pense qu'il doit bosser aussi. Donc bref, voilà, comme d'habitude à Game Info, hein, toujours premier sur l'info, toujours disponible, il n'y a pas de souci. Et je précise qu'il a failli pas avoir de numéro cette semaine, donc on vous a teasé dans les commentaires de la dernière émission pour rien en plus.
Ça a été juste.
Voilà. Bon allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de A Hat in Time, on enchaînera ensuite sur Moonlighter, on évoquera également Yakuza Island Express, on évoquera les créateurs de Darkwood qui balancent leur jeu sur The Pirate Bay, on enchaînera ensuite sur un remake 3D de The Secret of Mana, on parlera de Monster Hunter World, un jeu qui a l'air trop bien, encore une fois. Final Fantasy XV, qui va sortir sur PC. Et enfin, on terminera avec le trailer de Shenmue 3, qui a été dévoilé cette semaine. Et spoiler alert, ça a l'air naze. Voilà, voilà. Bon, allez, on va commencer donc avec A Hat in Time, mon cher Ben, qui va sortir le 5 octobre prochain. Alors, je le rappelle, A Hat in Time, c'est un projet qu'on suit depuis un moment déjà.
Un projet Kickstarter.
Voilà, tout simplement, c'est un clone de Mario 64, un peu comme Yooka-Laylee, et là quand je dis ça, je sens des gens qui commencent à frissonner, n'est-ce pas ? Enfin, quoi que Yooka-Laylee, c'était plus un clone de Banjo et Kazooie.
Oui, c'est vrai, c'était plus
proche
de ça.
Pour être tout à fait honnête, d'ailleurs c'était la même team que Banjo et Kazooie. A Hat in Time, donc qui sort le 5 octobre prochain, je le rappelle, le 5 octobre, c'est la date de sortie de Mario Odyssey. Enfin non, pas le 5 octobre, mais le mois d'octobre, c'est là où sortira Mario Odyssey. Donc, il va avoir fort à faire en termes, on va dire,
De
couverture
médiatique.
Enfin, disons surtout en termes de comparaison, parce que fondamentalement, concurrent, je veux dire, à mon avis, les amateurs de jeux plateformes sont tellement morts de faim déjà de base que ce sera pas de refus d'avoir deux jeux comme ça.
Et puis, ils sortiront pas sur la même plateforme, pour le coup.
Oui.
Dans l'immédiat.
Alors, je sais pas ce qu'il en est, s'il y a une version Switch de prévu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en octobre, il y aura pas de version Switch. Il y aura une version Xbox One, PS4 et PC, qui sont des plateformes donc où il n'y aura pas Mario Odyssey et où donc ils pourront jouer sur la frustration.
C'est ça.
Des gens. Et ça, c'est peut-être pas idiot comme plan de bataille, en fait.
Bah, c'est ça. Les gens vont se dire, ah, oh, tiens, un bon platformer, ah, bah, il y a celui-là. Allez.
Alors après, octobre, c'est quand même un mois qui va être assez chargé, donc j'ai quand même un peu peur pour eux, parce que d'une manière générale, on a beau dire, oui, ce jeu, il est pas concurrent de machin, peut-être, mais les gens, ils ne jouent pas qu'à un seul type de jeu, ils ont pas un budget illimité, et surtout, ils n'ont pas un emploi du temps.
C'est ça, exactement.
Illimité, donc il faut faire des choix à un moment donné, donc j'espère pour eux qu'ils s'en sortiront. Voilà, voilà. Mais bon, après, comme il s'adresse à une niche de joueurs très particulière qui est un peu morte de faim...
Voilà, c'est ça. Ça peut quand même être un bon plan pour eux, ouais.
Ça peut passer.
Si le jeu est réussi, ça peut bien marcher.
Oui, parce que c'est la question, après. Est-ce que... Bon, c'est un jeu qui a l'air varié, tu vois, au niveau des niveaux qu'il propose, etc. Moi, ce qui me fait peur, c'est, comme d'habitude, avec le jeu de plateforme 3D, bon, est-ce qu'il sera pas un peu trop classique ? Premier point. Second point... À l'opposé, ce qui partira pas dans tous les sens, parce que j'avais vu quelques vidéos de gameplay, il y avait l'air d'avoir, tu sais, des phases un peu de cache-cache, d'infiltration, parce qu'il y a un moment, il est dans un espèce de manoir, tu sais, à la Luigi's Mansion, où il y a des fantômes, où il faut qu'il se cache un peu, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'ils essaient de varier les phases de gameplay, donc pour le coup, est-ce qu'il va pas trop partir dans tous les sens non plus ? Après, il y a toutes les histoires de caméra, visibilité, les grands classiques du jeu de plateforme, où, bon, tu peux facilement te casser la gueule sur ces questions-là, on va dire. Donc voilà, il y a fort à faire. En tout cas, j'espère qu'ils s'en sortiront mieux que Yooka-Laylee, qui a eu un accueil plutôt mitigé, on va dire.
C'est un peu compliqué.
Qui était un peu trop classique en plus déjà dans son approche. Donc bref, on verra. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Il a une bonne bouille, c'est déjà une bonne chose. Même si techniquement c'est pas fou, il fait envie, je trouve.
Oui.
Voilà. Allez, on va enchaîner sur un jeu que moi je vais attendre beaucoup et qui a été il a pas été dévoilé durant cette Gamescom, mais moi je l'ai remarqué durant cette Gamescom, c'est Moonlighter. Alors j'avais lu dans les commentaires de la précédente émission des gens qui s'inquiétaient du fait que la Gamescom, ouais, il y a pas l'air de se passer grand-chose. Je crois que c'est Hicham, c'est ça qui disait ça.
Je crois, ouais.
Alors, je voulais préciser une chose par rapport à la Gamescom. La Gamescom, d'une manière générale, c'est un salon pour les jeux PC et les jeux indés, en fait. Alors, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des annonces sur les gros jeux, etc., mais c'est un salon où, a priori, tu vas plutôt voir ce genre de choses. Ce salon, il est très peu de temps après l'E3. Donc c'est pas là que tu vas avoir des grosses annonces d'une manière générale, à part Biomutant qui a été annoncé et que je trouve pas terrible, il y a pas eu d'annonce de nouveau gros jeu quoi entre guillemets. Non. C'est vraiment un salon en fait où tu vas voir des petits jeux comme ça, où tu vas les découvrir en fait, parce que fondamentalement c'est des jeux souvent qui ont déjà été annoncés depuis belle lurette, mais c'est à ce moment-là en fait où t'as pas mal de sites qui se concentrent sur ces jeux-là, parce que finalement c'est ceux-là qui permettent de faire l'actu sur ce salon-là, où tu peux y jouer un peu plus en profondeur. Donc je suis pas tout à fait d'accord de dire que il se passe rien à Gamescom, c'est un salon où tu découvres ce genre de petites choses. Et justement, alors Moonlighter, qu'est-ce que c'est? Bah c'est un successeur spirituel à Racketeer, ou Reset Tard, en bon français, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est Racketeer? Je le rappelle, c'est un jeu de gestion de magasin avec une partie de donjon, en fait. C'est un jeu que j'avais adoré à l'époque parce que c'était un jeu bourré d'humour, etc. Et là, c'est un jeu qui est un peu sur le même principe, où tu vas devoir aller te balader dans des donjons en mode Zelda, ou même Zelda Link to the Past, vu du dessus, oui. Etc. Ou même à la Isaac, tu vois.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait très Isaac aussi.
Ouais, parce que pour le coup, il y a le côté génération procédurale, ouais. Des donjons, comme dans Resetar, ceci dit. Resetar aussi, c'était la génération procédurale. Et il y a le côté aussi, donc, donjon la nuit, magasin le jour, tu vas pouvoir agrandir ton magasin. Le petit plus par rapport à Resetar, c'est que tu vas pouvoir interagir avec les villageois.
Ouais.
Et le fait qu'ils vont te donner des missions spéciales, qu'il faut les connaître aussi pour connaître leur goût, en fait. C'est et ça. Leur vendre des trucs qui les intéressent. Voilà. Donc moi, ça, je trouve ça très intéressant. C'est un projet que je vais suivre parce que déjà, d'une manière générale, vous me connaissez, j'adore ce genre de jeu où il faut, tu gères ton magasin, il faut vendre des trucs et tout. C'est mon dada. En plus, il y a ce côté qu'il y avait déjà dans Resetar où il faut le juste prix.
Oui.
T'as un espèce de carnet, en fait, où tu regardes, ah, lui, à ce prix-là, il aime bien cet objet-là, donc je vais mettre l'objet à ce prix-là. En fait, il faut le mettre ni trop bas, ni trop haut pour bien le vendre. Donc bref, moi, j'adore ce genre de jeu. En plus, il y a pas mal de variétés au niveau du gameplay. C'est super mini. C'est un jeu qui a de la gueule, en plus. Donc, que demande le peuple?
Oui, non, c'est clair. Ça fait, même moi, ça me fait envie. Bon voilà, le côté gestion, j'aime bien ça aussi. Après, le côté action RPG, à voir comment ils l'ont fait. Sur les vidéos, ça a l'air plutôt cool.
Ouais, est-ce que c'est pas trop répétitif, tout ça?
Voilà, c'est ça. Ouais.
Est-ce que le level design va pas être naze parce que c'est quand même compliqué de faire un jeu procédural bien foutu.
Ouais, c'est ça. Et après, il faut voir la partie, enfin, en termes de temps, ce que te prend le donjon, ce que te prend la gestion de ton magasin. Enfin, c'est plein de petites choses qu'il faut trouver le bon juste milieu. Et c'est pas toujours évident, mais bon, c'est plutôt prometteur. Donc ouais, on va vraiment jeter un œil. Il est censé sortir début 2018 sur PS4 et Xbox. Donc on va attendre ça.
Et puis, quid de l'écriture aussi. Parce que oui. Une des grandes qualités de Resetar, quand même, c'était que c'était un jeu drôle. Et ouais. J'ai un peu peur, par contre, de ce que j'ai vu, que le jeu soit un peu plat en termes d'écriture. Donc, j'attends de voir ça aussi.
En tout cas, c'est vrai que dans la vidéo, ils mettent pas ce côté-là trop en avant. Donc, à voir, ouais.
Après, je demande pas forcément que le jeu soit drôle, hein, mais qu'on soit clair. Mais qu'il soit bien écrit, quoi. Parce que
oui, non,
ça
mais
ajoute
minimum,
un petit
voilà,
plus,
c'est
quoi,
toujours
quand
pareil,
même.
Ouais. Parce que si tu dois avoir une certaine interaction avec les autres personnages pour connaître leur goût, etc., faut pas que ça soit que du répétitif et un truc bateau, on va dire.
Et aussi, ah oui, dernier point. Resetar, une mécanique qui marchait super bien, c'est que tu jouais un personnage qui était endetté, en fait. Et ce personnage devait payer à date fixe un certain montant. Et du coup, tu sais, ça te mettait...
T'as une petite pression supplémentaire.
Un coup de pression, tu vois, où tu devais prendre des risques, du coup, en fait.
D'accord.
Et aussi, ce qui me fait peur, c'est que si t'as pas cette mécanique-là dans celui-là, en tout cas, je l'ai pas vu, est-ce que tu vas pas rentrer en mode pépère et du coup, le fait de pas avoir cette pression, ça ne va pas te pousser à faire certains choix drastiques?
Ouais.
C'est ça qui mettait du piment au gameplay de Resetard. J'ai un peu peur que le gameplay soit un peu plan-plan aussi à ce niveau-là, quoi. Mmh. Voilà. Bon, allez, on va passer à la suite. Et la suite, c'est Yoku's Island Express. Alors, Yoku's Island Express, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu bien particulier. C'est un jeu mixant de la plateforme, 2D, vu de côté. Vous me direz jusque-là, c'est tout à fait classique. Et un jeu flipper. Et c'est là où je trouve ça très intéressant, parce que vous allez jouer à un petit insecte, en fait, qui pousse une boule. Il est attaché à cette boule, et vous allez jouer avec des bumpers, etc. Vous allez évoluer dans des niveaux, comme dans un jeu plateforme. Sauf que, en plus, vous avez le côté, je m'amuse à trouver des trucs cachés, tu sais, comme dans les flippers, où des fois il va dans un coin, en fait, t'as un machin caché, et ça te le balance, je sais pas où. Bref, ça a l'air super fun. J'aime beaucoup le concept, qui a l'air très original. Le jeu est super mimi. Et ça fait partie de ces jeux, justement, qu'on aime bien découvrir durant la Gamescom, parce que c'est un jeu qui a été annoncé il y a assez longtemps déjà. Je connaissais pas du tout. Et c'est grâce notamment à Gamekult qui ont fait une couverture très intéressante d'ailleurs, je trouve, de la Gamescom, parce qu'ils ont fait le choix de se focaliser sur les indés, et je trouve que c'est ce qu'il faut faire à la Gamescom, parce que c'est pas un salon où tu t'en fous des triple A Gamescom, quoi.
Oui, c'est pas l'E3, ouais.
T'as
c'est
déjà tout salon, vu à l'E3, ouais. De toute façon, donc voilà. Et merci à eux pour cette découverte, parce que franchement, c'était super chouette. Voilà.
Bah, petite précision, c'est un jeu Switch.
Il sort sur toutes les plateformes, hein, mais c'est un jeu Switch, entre autres.
Ouais, donc... Bah, un jeu de plus intéressant sur la Switch, a priori, donc c'est quand même une bonne chose.
Bah, surtout, c'est idéal pour... moi, je trouve, hein. En plus, oui. Comme tu disais tout à l'heure, s'il rajoute une fonctionnalité gyroscope, il y a moyen de faire des trucs drôles, quoi.
C'est ça, ça peut ajouter encore un petit truc en mode nomade, très intéressant, ouais.
Donc, encore un petit jeu qu'on suivra de près. Un autre petit jeu qui nous a fait de l'œil et qui est sorti très récemment, c'est Darkwood. Mmh. Alors, Darkwood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'horreur vu du dessus avec des éléments de survie RPG, en fait.
Ouais, c'est ça.
Qui a une ambiance, mais je vous mettrai une vidéo du jeu, mais c'est hypnotisant, quoi.
Si vous regardez la vidéo, mettez le son, parce que c'est très très important aussi pour dans le jeu.
Non, mais ça, c'est un jeu, les gens, il faut y jouer avec le casque, hein. Rendez du justice, s'il vous plaît.
Si pour l'immersion, pour qu'elle soit vraiment complète, là, il faut pas rater ça, ouais.
Alors, à moins que vous ayez un ensemble 5 points chez vous, vraiment, jouez-y avec le casque, quoi. Ça a l'air super chouette. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Darkwood a été mis à disposition sur The Pirate Bay. De ce que j'ai compris, ils ont vu l'histoire d'un gamin qui avait dit que, bon, au départ, il avait acheté avec la carte bleue de ses parents et que, finalement, il a dû annuler l'achat parce que, bon, il s'est rendu compte que ses parents avaient peut-être...
râlé un petit peu.
râlé un petit peu, quoi. Donc, ça les a un peu touchés. Du coup, ils ont mis en ligne le jeu gratuitement sur The Pirate Bay. Ils ont dit, de toute façon, on préfère ça plutôt que vous l'achetiez sur un site de clé, parce que les sites de clé, c'est le cancer. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. À un moment donné, voilà, les gens, si on en est à un stade où les développeurs eux-mêmes préfèrent que vous piratiez leur jeu, c'est que peut-être il y a un souci avec les sites de clés. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, essayez de vous renseigner un minimum sur les sites de clés sur lesquels vous achetez. Voilà. Dans tous les cas, je salue l'initiative et j'insiste sur le fait que je salue l'initiative parce qu'il y a quand même 2-3 connards qui ont trouvé le moyen de râler en mode « Oui, moi j'ai acheté le jeu, ils le mettent à disposition gratuitement alors qu'il vient à peine de sortir, je trouve ça scandaleux !» Mec, déjà ton jeu de base, même s'il y avait un DRM dessus, quand tu vois que maintenant des nouveaux ils sont piratés en moins d'une semaine... Voilà. Et en plus, il était sur GOG. Donc, de toute façon.
Voilà, exactement. En plus, il avait pas de DRM, celui-là. Donc, si tu voulais le trouver gratuitement, t'avais pas besoin de chercher bien loin, hein.
Là, c'est juste que le développeur a fait le choix de mettre une version propre à lui pour être sûr qu'il y ait pas, tu sais, genre un petit malware qui serait glissé à l'intérieur, ce genre de choses. Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Pour une fois qu'il y a des gens qui font pas chier avec le copyright, qui réalisent que voilà, une fois que t'as ton jeu dans la nature, de toute façon, il se retrouvera sur BitTorrent.
Non, mais voilà, c'est ça exactement. Aujourd'hui, faut pas rêver. Tous les jeux qui sortent, qu'ils soient bien, pas bien, se retrouvent disponibles au téléchargement en torrent généralement. Donc, faut arrêter l'hypocrisie. Eux, ils ont fait ce choix-là, comme tu dis, ça évite au moins que ça soit des versions bizarres qui soient dans la nature. Pourquoi pas, après, voilà, de râler sur ça, c'est vraiment, ça ne
non,
sert
mais
à
tu
rien.
Vois, ça, c'est le public typique de Steam.
Ouais.
Les mecs qui croient que les développeurs leur doivent tout, qui ont des comportements parfois, mais tu lèves les yeux au ciel. Je me souviens récemment, alors ça n'a rien à voir, hein, mais je crois que c'est le jeu Battle Brothers qui est sorti. Qui est un jeu, alors certes, il y a des défauts, tu vois, mais qui a eu un accès anticipé qui était très propre.
Mmh.
Et le truc, c'est que il disait à un moment donné, alors peut-être qu'après la sortie, il y aura un suivi, on sait pas trop, en fait. Et il y a certaines features, en fait, qui pensaient implémenter, qu'ils ont pas implémenté finalement. Mais encore une fois, tu sais, ils étaient clairs sur le fait qu'il y avait rien de certain.
Mmh.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs se sont fait défoncer sur Steam. Dans les reviews,
ah oui.
En fait. Ils sont passés, genre, je crois, de 95% de reviews positifs à 70%, un truc comme ça. Enfin, bref.
Ah oui.
Le genre de truc. Et tu sais, aujourd'hui, des fois, il y a, les gens ont un comportement que je trouve injuste, mais même limite dangereux vis-à-vis des studios, parce qu'ils mettent les studios dans la merde, en fait. Quand ils réagissent comme ça, pour pas grand chose, en plus, hein. Ils font pas grand chose pour
une mauvaise critique sur Steam, ça te met un bon coup derrière la tête. Ouais, ça, c'est certain.
Après,
ouais.
Tu vois, moi, je suis partisan de la stratégie de mal noter un jeu quand ils font les développeurs se foutent de ta gueule littéralement.
Ah oui, oui, oui.
Mais faut pas déconner non plus quoi. Là c'est juste un développeur qui a du bon sens et voilà, enfin tout simplement.
Faut arrêter de râler pour râler, ouais.
D'ailleurs à propos de copyright, tiens, je voulais remercier LKBD qui nous a mis une super vidéo que je vous mettrai en lien de cette émission. Qui parle du copyright et de comment le copyright tue la créativité et qui explique que de toute façon on ne crée rien ex nihilo, que à la base le copyright c'était juste pour te récompenser temporairement du fait que t'avais innové et que après ça devait tomber dans le domaine public en fait parce que c'était censé enrichir le domaine public. Donc c'est une vidéo qui est super intéressante. Merci à toi et KBD pour cette vidéo, elle était vraiment très chouette. Voilà. Bon allez, on a fini de tergiverser, n'est-ce pas? Mais bon, c'est des infos, hein, je veux dire un podcast on part
si
en
y en
live,
a pas c'est pas nous.
Voilà, c'est ça. Et on va parler d'un jeu de la tristesse.
Ouais.
C'est un remake 3D de Secret of Mana, Ben.
Et ouais, malheureusement.
Malheureusement, c'est un remake 3D typique de Square Enix.
C'est ça.
Non, parce
donc
que
c'est pas forcément
après,
une bonne
c'est
chose.
Pas comme si on est censé être surpris, tu vois, parce que à peu près tous les remakes 3D qu'ils ont fait, ils sont aussi dégueulasses. Mais là, le problème, c'est que d'habitude, tu sais, c'est soit sur des jeux que on n'a pas l'attachement Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, c'est
ouais,
des jeux,
jeux
tu sais auxquels on n'a pas joué à l'époque.
Ouais.
Donc voilà. Et encore, je trouve qu'il y a certains jeux. Les remakes 3D qu'ils avaient fait à l'époque sur DS, par exemple, ils étaient pas aussi dégueulasses que ça.
C'est
quoi,
ce que j'allais dire. Il y a certains remakes qui étaient pas si pourris.
FF5, je trouve que ça allait encore, par exemple. Ou FF4, plutôt. Mais, par contre, là, franchement, Secret of Mana, c'est quand même un jeu de notre enfance. Mm. Et quand je vois ça, ça me fait mal, quoi. Le manque d'ambition totale, la DA en mode random. Et surtout, mais t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule, quoi. Parce
oui,
que quand tu vois qu'il y a des studios avec infiniment moins de moyens que Square Enix qui arrivent à te produire des jeux qui ont tellement plus d'ambition d'un point de vue artistique, tu dis, mais vous faites quoi, Square Enix, quoi? Parce qu'en plus, c'est pas comme si ça allait vous coûter des milliers et des cents d'avoir une direction artistique un peu ambitieuse. On te demande pas non plus, tu vois, de faire le remake de Final Fantasy VII. On te demande juste d'avoir un jeu en vue du dessus. Alors, peut-être en 3D, mais au moins avec un truc qui a un peu de gueule, quoi. Tu mets des artistes un peu talentueux dessus. Tu mets un petit budget, parce que je suis désolé, si des studios y arrivent avec Peanuts... Je pense que Square Enix peut faire quelque chose d'un peu ambitieux sans mettre un gros budget dessus non plus. Stop, quoi. Arrêtez ces remakes dégueulasses qui ressemblent à un jeu mobile random.
Ouais, c'est un peu triste. On a l'impression qu'ils avaient un trou dans leur calendrier pour l'année prochaine. On dit, tiens, quel jeu on pourrait refaire? Oh, ben celui-là, on a un peu de temps, on va faire un truc vite fait et puis les gens seront contents. Mais non.
Oui.
Non, un minimum de qualité parce que bah ça reste quand même voilà un jeu que les gens de ma génération voilà notre âge un peu plus de 30 ans on va dire
c'était la claque.
Y en a beaucoup qui ont dû jouer à ce jeu et passer beaucoup d'heures dessus et c'est vrai que ça fait un peu mal de voir ce qu'ils en font là quoi.
Alors juste un exemple comme ça. parce qu'on va nous dire que oui, c'est un design anime, etc. Et fondamentalement, c'est vrai que quand tu vois la patte de la version SNES, tu pourrais te dire que effectivement, l'interprétation anime random, c'est vrai que ça peut coller à la direction artistique de l'époque, si tu veux.
Ouais.
Sauf que moi, je sais pas. T'es Square Enix, t'as un peu d'ambition. Tu regardes la couverture, tu sais, de la boîte,
de la jaquette,
de, la jaquette de l'époque, où tu sais, ils sont devant l'arbre mana qui est magnifique, et tu dis, tiens, on va faire un jeu en cel shading qui va avoir cette gueule-là, en fait.
Ouais, il y avait d'autres possibilités, ouais.
Voilà, t'es pas obligé de faire comme tous les jeux Square Enix en 3D. Le pire, c'est qu'ils ont même cette approche-là sur leur production originale. C'est ça qui me tue aussi. Genre, I Am Setsuna, c'est exactement ça, quoi. Alors, ouais, c'est un peu plus joli, quand même. Faut pas déconner.
Ouais.
Alors là, vous allez voir la vidéo. Encore ça va. C'est pas trop dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, mais pas trop. Mais par contre, je vous invite à aller regarder les screenshots surtout. C'est immonde.
Ça fait peur.
C'est dégueulasse. Donc franchement, Square Enix, arrêtez quoi. Stop. Mm. Je veux dire, c'est un jeu de notre enfance quoi. Merde. Respectez-le.
Oui,
quoi.
Non, mais ouais, c'est ça. Des gens qui vont nous niquer FF7, alors...
je serais pas aussi péremptoire, mon cher Ben. Moi, j'attends de voir. En tout cas, FF7 a le mérite d'être beaucoup plus ambitieux que ça.
Oui, non, mais oui, non, mais de toute façon, FF7, fait, ça sera pas comparable parce que ça sera même pas le même jeu. Ça sera juste le même nom, mais ça sera pas le même type de jeu.
Ça sera une réinterprétation.
Exactement.
Ce qui, quelque part, pourquoi pas, hein, après
oui,
tout.
Oui, pourquoi pas. C'est sûr.
Voilà.
Enfin bref, commençons pas à parler de ça parce qu'on a pour un moment.
Ouais ouais, parce que je pense qu'on en parlera des heures et des heures quand il sortira.
Il y a moyen,
donc,
ouais.
Voilà. Bon, allez, on va enchaîner, mon cher Ben, sur le jeu de la hype. Et le jeu de la hype, c'est Monster Hunter World. Alors, il y a eu une vidéo qui a été dévoilée durant cette Gamescom. Mm-hmm. Une vidéo d'un nouvel environnement, parce que je rappelle le jeu à la base, donc c'était plutôt des environnements forestiers, tout ça.
Ouais, dans la première vidéo qu'on avait eue, ouais, c'était celle de... Je sais plus, c'était pas
le 3,
non, c'était le 3 même, ouais.
C'était le 3, oui.
Ouais, voilà, où on voyait, on avait une bonne vidéo déjà d'une petite demi-heure, où on voyait, voilà, une chasse, la chasse à un monstre. Et voilà, l'environnement était déjà assez vaste, mais ça restait, voilà, cloisonné dans une sorte de forêt, il y avait des grands rochers, des grands arbres, voilà. Et là, on passe vraiment à une nouvelle zone, qui est plus falaise, sable, ça ressemble, voilà, c'est plus, ça fait un peu plus austère.
Marécage boueux, etc.
Ouais.
Vraiment très très intéressant. Et surtout, encore une fois, il y a une illustration, comment dire, de l'interaction avec le décor. Alors je te laisse expliquer, Ben, parce que c'est, moi je trouve ça fou.
Voilà, ben on est en train de se battre avec un monstre un moment, on est au-dessus, voilà, c'est une espèce de, bah au milieu de colline, on est sur une espèce de sable.
Voilà.
Et à un moment, on voit que le monstre fait un truc bizarre, il commence à crier, on sait pas trop.
Bah en fait, ce qui se passe, c'est que tu te bats avec ce monstre-là, et le mec il se rend compte qu'il y a des espèces de bestioles volantes qui sont dans le coin, il tire dessus, et là, elles se mettent à gueuler, et...
Et d'un coup, le sol s'effondre, et il y a une espèce de monstre énorme qui arrive du dessous pour bouffer le monstre qui était au-dessus, et potentiellement nous, si on était juste à côté, mais ça fait un trou énorme qui s'ouvre dans la terre, et on tombe à l'intérieur, et on se rend compte qu'il y a encore, en fait, un niveau en dessous de ça.
Voilà.
Et surtout, sur la vidéo, c'est fait de manière très fluide.
Et moi, tu vois, rien quand je vois ça, je suis dingue, quoi. Dieu sait que j'aime pas Monster Hunter à la base. Enfin, moi, ce que j'avais vu, c'était un jeu super rébarbatif, avec des décors cloisonnés. Alors attention, hein, le gameplay du jeu a pas fondamentalement évolué de ce que j'ai vu, hein. Ça reste un jeu quand même de chasse, quoi. Mais le fait qu'il y ait cette interaction-là avec le décor, le fait que tu vas pouvoir poser des pièges, enfin... En fait, déjà, le fait que le monde soit ouvert, ça veut dire que tu vas pouvoir dire le monstre qui va pouvoir se barrer par là et tout. Parce que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que au moment où le personnage arrive à remonter à la surface, en fait, il se rend compte qu'il y a un monstre qui essaie de bouffer l'autre et que l'autre, il s'enfuit, en fait. Et donc, du coup, il s'enfuit dans un corridor qui est un peu étroit. Et là, à un moment, il pose un piège où il y a des espèces de chats super chibi et tout qui le capturent avec un filet. Il commence à se battre avec et tout. Il saute dessus en mode Dragon's Dogma.
Ouais.
Franchement, c'est épique avec un grand E, quoi. Enfin, et moi, je suis fan, tout simplement. Voilà, je suis à fond dedans, quoi.
Ouais, moi j'ai encore un doute sur le fait répétitif du jeu. Parce que, alors j'ai jamais joué à Monster Hunter, donc voilà, ça m'a jamais attiré comme tu disais pour certaines raisons du côté répétitif, voilà.
Bah c'est un jeu de farm, hein, de toute façon.
Voilà,
Quoi qu'il
ouais. Bon
arrive.
après j'ai fait d'autres jeux de farm, donc voilà.
Ark Survival Evolved, de tout
Par
ça.
exemple, il en fait partie.
Voilà.
Ouais, j'ai fait, de toute façon j'ai fait beaucoup de JRPG quand j'étais jeune, et quand on était jeune, les JRPG, il y avait énormément de leveling à faire, donc voilà. Donc, à voir. Voilà, le côté monde ouvert peut vraiment apporter de nouvelles choses, comme tu disais, parce que le monstre va pouvoir s'enfuir, il va falloir anticiper certaines choses. Donc voilà, ça peut rajouter pas mal de gameplay intéressant. Je suis, je pense, moins hypé que toi, mais je comprends ta hype dessus quand même, ouais.
Mais le truc, c'est moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que l'environnement est vivant en fait.
Ben, c'est les différentes possibilités, exactement. Chacun va combattre en fait le monstre un peu à sa manière, quoi. À la manière de Hitman, pour certains Hitman où tu pouvais faire ta mission de trois ou quatre manières différentes, et ben là, le côté monde ouvert va rajouter ça, parce que le monstre, au moment, il va partir d'un côté, il va se faire bouffer, attaquer par un autre monstre. Enfin, il peut y avoir vachement d'interactions différentes a priori.
Et en fait, c'est ça qui est drôle, quoi. Enfin, c'est la surprise. Et surtout, mais moi, ce que j'aime, c'est que j'ai jamais vu ça en fait. Citez-moi un jeu où il y a ce type d'interaction avec les bestioles et le décor. J'ai jamais vu ça, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de la nouveauté, quoi. De la nouveauté dans un gros jeu comme ça. En plus, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le jeu est beau, et malgré le fait qu'il casse le décor dans tous les sens, ben, ça reste fluide, en fait.
Ouais, sur la vidéo, ça reste très fluide, ouais.
Et surtout qu'il n'y a pas que cette interaction-là. Je veux dire, juste avant, t'as l'interaction basique en mode, t'as le monstre qui fonce dans une pierre et t'as la pierre escasse quoi. C'est génial. C'est moi j'adore, j'adore. Je pense que en tout cas je vais y passer un certain nombre d'heures. Je sais pas si c'est un jeu que je finirai parce que je pense que c'est le genre de jeu
Ouais, où tu
qui se
tournes en
finit
boucle et
pas.
t'avances pas, ouais.
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas je pense que c'est un jeu où potentiellement le temps que tu y passeras, tu passeras un bon moment. Voilà.
Je pense que ouais, c'est pas impossible, ouais.
Donc hype over 9000. Bon, sinon, à part ça, Final Fantasy XV sur PC, ça y est, c'est officiel. Donc, il sortira en 2018. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le jeu devrait être modable. Alors, ce sera la supérieure version 4K, etc. Ils ont fait apparemment des démonstrations où les personnes qui ont vu ça ont été convaincues par le rendu sur PC. Alors, quand même, j'ai un certain nombre de griefs. Déjà, il y a un partenariat avec Nvidia.
Donc voilà, si t'as pas une Nvidia, la 4K et la haute qualité, tu pourras laisser tomber.
Non, mais c'est surtout qu'en fait, ça va être comme, tu sais, le problème qu'il y avait eu avec The Witcher 3, où
Ouais.
t'avais les effets de fourrure, par exemple, qui
C'est ça, c'était
marchaient que
optimisé
chez
que
Nvidia,
pour...
parce que
Ouais.
tout leur technologie, là, c'est des trucs propriétaires fermés, en fait.
Ouais, bien sûr.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? AMD, ben, ils ont énormément mal, en fait, à adapter leur driver pour que ça fonctionne sur ce genre de techno,
C'est ça,
parce que
parce
la
que
techno est
AMD,
fermée.
ils ont moins de partenariats de ce type, et ils font de la qualité aussi, mais sauf que, bah, avec l'accord qu'il y a entre Nvidia et différents studios, ils peuvent, voilà, développer des drivers spécifiques pour certains jeux qui amènent des choses, et du coup, AMD prend un retard fou là-dessus, et après, à rattraper, c'est quasiment impossible,
Mais
donc,
surtout, le truc, c'est que AMD, comme ils ont pas de pognon, en fait,
Ouais.
ils peuvent pas développer ce genre de technologie propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'open source, parce qu'ils ont des technos AMD aussi, hein, mais c'est
Ouais,
de
bien sûr,
l'open
ils en ont,
source. Et moi, je n'aime pas ce genre de partenariat, je vous le dis tout de suite, hein, parce que en général, ça produit des résultats catastrophiques sur une partie du parc. En tout cas, pendant un temps, parce que le temps qu'on
Oui.
trouve la parade pour adapter les drivers,
Exactement.
etc. Donc ça, déjà, à la base, je suis pas fan. Et surtout, alors le truc là où, par contre, je suis pas du tout fan, il y a eu un leak d'une note des specs qui était demandée. C'est une MiGA 80 Ti, je crois, de Nvidia,
Oui.
donc le haut de gamme actuel.
Bah après c'est le full haut de gamme. Après bon c'est pour de la 4K donc c'est pas non plus voilà.
Non, mais le truc, c'est que je vois des articles enthousiastes sur ça, et j'ai envie de répondre au mec, mais putain, vu la config, heureusement que ça tourne bien, quoi. À un moment donné,
Ben
faut
oui
arrêter de
voilà
déconner. Bon,
c'est.
alors certes, c'est de la 4K, et c'est bien qu'en 4K ça tourne comme ça, mais putain, vu la config, de toute façon, il y a personne qui pourra se payer ça, hein, donc voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, à part la config recommandée, c'était le fait que le jeu allait demander 170 gigabits.
Si peu.
Voilà, si peu. Alors après, il y a eu un damage control en mode. Alors mais non, ce truc, c'est une note interne qui aurait pas dû diquer et c'est juste la config de la démo qui a été montrée. Il y a pas de config fixée pour le moment. On sait pas en interne quelle sera la config recommandée. Donc attends, ça veut dire qu'en gros, pour le moment, peut-être que ce sera la config.
Voilà. S'ils n'arrivent pas à optimiser le truc, ça peut rester comme ça.
Voilà, c'est ça. Qu'on soit clair, l'espace que va prendre le jeu en 4K, c'est 170 gigabits. Si le jeu de base, il est mis à disposition pour fonctionner en 4K, et que c'est pas genre un patch que tu télécharges à part, tu vas dans les menus, c'est une option, télécharger
ouais,
la version 4K.
Télécharge d'autres choses, d'autres textures, etc., ouais.
S'ils font pas ça, et qu'ils optimisent pas, ça veut dire que, au maximum, ce sera 170 gigabits, mais même s'ils optimisent, je veux dire, on est parti pour 100 gigabits, là, hein.
Ah bah oui, c'est... Oui.
T'auras beau faire toute l'optimisation du monde...
Oui, ça reste de la 4K, c'est plus gros que que de la
donc,
HD, donc
ça
voilà.
Ça veut dire que t'auras une optimisation dégueulasse, et j'ai envie de poser une question à un moment donné aux boîtes comme Square Enix. C'est quoi votre délire, là? Vous réalisez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a encore des forfaits, même si je crois que c'est la norme, comme on avait, tu sais, à l'époque, au début de l'Internet, ouais, les forfaits limités, ou quand tu dépasses, on te...
Un nombre d'heures de connexion limitée, ou ce genre de choses, ouais.
Voilà,
le...
c'est ça.
Internet aux États-Unis, c'est un peu compliqué, ouais, pour
bah,
ça.
C'est un peu
ouais.
Le tiers
monde,
en fait.
Ils sont un peu
en
retard sur nous.
Quand j'ai découvert ça, d'ailleurs, j'ai halluciné, parce que j'ai dit, putain, mais en fait, on est trop bien en France, quoi, par
ah bah, en France, on est quasiment les mieux lotis dans le monde entier pour Internet, hein. Enfin, si t'habites à Paris.
Ouais, bah, en fait, en France, on a eu la chance d'avoir Free, hein, tout simplement. Parce que, il y aurait pas eu Free à une certaine époque, je pense qu'on serait encore à ce stade-là.
Bah, t'aurais du très haut débit, etc., mais tu le paierais 100 balles par mois, le payer 30 euros, quoi.
Voilà, c'est ça. Et, vous réalisez donc, il y a ce genre de situation-là dans des pays comme les États-Unis, et que, mais, qui va acheter votre jeu, quoi? Alors, j'achète un jeu, mais il faudra 3 mois pour télécharger. Tu vois, c'est ce type de raisonnement par l'absurde,
bah,
quoi.
Bah oui, c'est ça. Ouais.
À un moment donné, pitié, mais optimisez vos jeux, quoi.
Voilà, comme tu disais, si tu veux profiter de textures max, de 4K, etc., ben ça télécharge des choses en plus. Mais nativement, il faut pas qu'il soit aussi gros, quoi. Parce que les gens, déjà, qui ont pas la config pour, ben ils s'en foutent d'avoir à tout télécharger et tout avoir en local sur leur PC. Enfin, c'est n'importe quoi.
Bon, par contre, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est le modding.
Ouais.
Le jeu va pouvoir être bien parce que les gens vont finir le travail de Square Enix. Après, moi je vous avoue, c'est une annonce, bon.
On savait pas quand ça allait arriver, mais de toute façon, on fait la stratégie de Square Enix depuis quelque temps, c'est que les jeux arrivent sur PC, hein, donc bon.
Voilà, et puis surtout, ils ont pas le choix. En fait.
Oui, d'autant plus.
Et vu les coûts de développement, pour rentabiliser, t'as pas le choix, faut le sortir partout ton jeu, de toute façon. Donc c'était sûr qu'il allait sortir. Mais vu ce qui a été dit sur le jeu, en fait, mais surtout vu ce que j'ai vu sur le jeu, moi, c'est pas un jeu que j'attends plus que ça. Pour être très très honnête, je pense que je le ferai par curiosité en occasion, en fait. Mm-hmm. Et quand il sera modé et que les modeurs finiront le scénar. Mais en fait, moi, ce qui me rend surtout très curieux, c'est ce que vont faire les gens comme projets originaux, tu vois, avec ce moteur-là.
Oui.
Après, il faut voir les outils de modding, hein.
Voilà, qu'est-ce que, ouais, est-ce qu'ils vont tout mettre à disposition, est-ce que ça, voilà.
Est-ce que ce sera des outils de modding à la Bethesda, ou est-ce que c'est, genre, vous pouvez modder le jeu, on s'en fout, mais on...
Ouais.
En fait, il n'y a pas vraiment de support du modding.
C'est
quoi.
Ça, on vous aide pas trop quand même non plus à le faire, faut pas déconner, quoi.
Donc, voilà, ça reste à déterminer, mais ils ont une carte à jouer, hein, je pense, Square Enix. Et s'ils font ça, par contre, je serais très curieux de voir les projets originaux qui vont émerger de ça, parce que on sait que, par exemple, avec Skyrim, il y a eu des énormes projets qui n'ont rien à voir avec Skyrim, ne serait-ce qu'en termes de mécanique de jeu, qui sont super intéressants, qui sont très pros, quoi, en fait.
Ah,
à
oui,
surveiller.
Oui.
Allez, on va terminer cette semaine d'actualité avec un autre jeu de la honte, mon cher Ben. Et ce jeu de la honte, c'est Shenmue 3,
ah,
qui
bah,
a eu
oui.
un trailer. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Ben, de ce trailer?
Alors moi, déjà, je suis pas du tout hypé par Shenmue, mais là, je ne peux pas l'être plus. C'est très triste d'avoir sorti un teaser de cette qualité-là, quoi. Des fois, on râle parce qu'on n'en a pas, mais là, faut mieux s'abstenir que de sortir un truc comme ça.
Bah, le truc, c'est que ils ont annoncé leur partenariat avec Deep Silver, et ils se sont dit, allez, on marque le coup.
Ouais.
Ouais, non, mais si c'est pour faire
non,
ça,
les gars, non.
Non. Parce que, en fait, déjà, d'une manière générale, ça fait très amateur, je trouve.
Oui.
Les visages, surtout, mais les visages, au secours. La version Dreamcast leur met la honte, quoi. Vous réalisez quand même qu'on est, c'est quelle année déjà Shenmue? C'est 2000, je crois? 2001?
Je sais
2002?
Plus.
2002, je crois. Je dis peut-être une connerie, hein, mais je crois que c'est ces années-là, la Dreamcast.
Ouais.
Et c'est quand même un jeu qui a, quoi, 15 ans à peu près?
Oh oui,
sur une console qui est bien plus vieille. Alors certes, Shenmue avec le budget, mais je veux dire, les technologies ont évolué en même temps. Ce qu'on faisait sur Dreamcast à l'époque, on le fait avec rien aujourd'hui en budget, quoi. Et c'est chaud, quoi. C'est,
ah bah,
c'est
là,
pas possible.
Ouais, c'est...
Il fait difforme, en fait. C'est
ouais.
Très bizarre.
Mais ça,
c'est moche.
En fait, ça fait tellement pas jeu de 2018, on va dire. Ça fait un vieux jeu, quoi. C'est...
Alors, je vais être très insultant, mais je suis désolé, j'ai pas envie d'être poli. Ça fait projet étudiant, quoi.
Presque, ouais.
Non, non, mais sérieusement, ça fait l'étudiant qui découvre l'Unreal Engine, Unity, qui fait des trucs avec, et c'est pas bon, quoi.
Ah non, c'est
chaud.
Pas bon, non.
Franchement, j'ai une position ambivalente vis-à-vis de Shenmue. C'est-à-dire que Shenmue 2, moi, c'est un jeu qui m'a émerveillé à l'époque. C'est une série que j'attends plus depuis longtemps, hein. Je faisais pas partie de ces gens qui pissaient chez nous, ils dormaient chez nous, ils mangeaient chez nous. Alors certes, l'histoire elle est pas finie, mais bon, voilà quoi.
Ouais.
Il faut passer à autre chose, quoi. Et moi j'étais dans cet état d'esprit là, mais d'un autre côté, Shenmue c'est un jeu que j'ai adoré, quoi, parce que système de combat de Virtua Fighter qui était génialissime. Et je suis désolé, tous les gens qui disent que oui, Yakuza, c'est Shenmue moderne. Moi, j'ai pas du tout la même expérience sur un Yakuza et un Shenmue, parce que certes, les deux jeux ont en commun ce côté. On va créer un environnement à taille réduite, mais réaliste, avec plein de mini-jeux à la con dedans. Certes, ils ont ça en commun, mais par contre, en termes de gameplay sur les combats, ce qui est un peu le centre du jeu pour moi, en tout cas, ça, c'est ce qui m'intéressait le plus dans ces deux jeux-là, ça n'a rien à voir. Yakuza, c'est Street of Rage en 3D, où tu tatanes les mecs, tu les balances dans les décors, c'est un jeu avec une prise en main immédiate, super accessible, alors que Shenmue, c'est l'exact opposé, quoi. C'est une simulation de combat, d'ailleurs, c'est le moteur de Virtua Fighter, hein. Et Virtua Fighter, pour ceux qui ont joué, vous savez que c'est assez pointu, quoi. Tu sors pas des coups comme ça, il y a une courbe d'apprentissage, elle est comme ça, mon gars, quoi. Et c'est ça que j'aimais dans Shenmue, quoi. C'est ce côté vraiment système de combat super pointu. Il y avait un côté en plus très contemplatif dans Shenmue, film de baston chinois, etc. Alors que Yakuza, c'est vraiment le film de Yakuza, quoi. C'est barré dans tous les sens, ça parle... C'est vraiment deux jeux différents, et je pense que un jeu comme Shenmue a sa place aujourd'hui, quoi. Mais pas comme ça. Pas avec des moyens aussi dérisoires. Et j'espère que leur partenariat avec Deep Silver va leur permettre d'avoir des sous, et va leur permettre de finir le jeu proprement. Mais pour le moment, en tout cas, je suis très très inquiet parce que c'est dégueulasse.
Ça fait flipper, ouais. Pour le moment, ça peut pas donner envie, quoi. Alors après, il y a toujours voilà ce côté fanbase des vieux, mais les gens qui vont arriver aujourd'hui sans trop connaître les précédents, qui vont voir ça, mais tu ne peux pas acheter ça. C'est bon, après voilà, c'est qu'un premier teaser, on est d'accord, mais fou, quand même, quoi.
Bah, surtout qu'en plus là, on sait que on n'aura pas la fin de l'histoire avec Shenmue 3. Donc ça, avec un peu de chance, tu vois, on va encore finir sur un teaser comme Shenmue 2, parce que Shenmue 2, la fin du scénar, c'est vraiment ils partent dans un délire, et c'est aussi à cause de ça, à mon avis, que les gens attendent, parce que Shenmue 2, la fin, c'est vraiment un truc où tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et je comprends que les gens aient envie d'avoir le fin mot de cette histoire, ceux qui l'ont pas avec ce jeu-là déjà, et vu comment c'est parti, je veux dire, t'as quand même un projet qui a pas un budget énorme, qui, déjà, à l'époque, était un projet de niche, parce que c'est pas un jeu fun chez nous, quoi. C'est un jeu qui a un délire très particulier et il faut rentrer dedans, je vous le dis, hein. Alors, il y a des défauts de Shenmue 1 qui sont pas dans Shenmue 2, parce que Shenmue 1, c'était vraiment le jeu où, genre, t'avais une phase où tu déplaçais des caisses dans un port, quoi. Et ça avait été corrigé dans Shenmue 2, mais ça restait quand même un jeu assez pisse, où il y avait pas un rythme endiablé, etc., et fallait prendre son temps, quoi. Alors en plus, si tu as une technique dégueulasse, que t'as déjà perdu une partie de ta fanbase, parce que moi, je vous le dis, hein, je l'achèterai pas à Day One. Hein, j'attendrai de voir ce que là, ça donne. Oui. C'est chaud, quoi. Voilà.
Ouais. C'est pas bien parti, ouais, ça c'est sûr, ouais.
Alors, en plus, moi, ce qui me fait grincer des dents, c'est que ils ont dit qu'ils allaient simplifier le système de combat, qu'ils allaient le rendre beaucoup plus cinématique, accessible. Alors, mon cher Yu Suzuki, je vous respecte, vous êtes une de mes idoles, pour moi, vous êtes le Miyamoto de Sega, mais j'espère que vous allez pas finir votre carrière avec un projet bancal comme celui-là, parce que... Je vois venir à 10 km, quoi. Je vois le projet qui a pas de moyens, qui va sortir, qui va être bancal, qui va se faire défoncer de partout. Ouais. Et ce mec, il mérite pas de se faire lapider sur la place publique, et j'ai peur que ça finisse comme ça, quoi. Donc, s'il vous plaît, les gens qui vous occupez de ce projet, parce que je crois que c'est des Français, en plus, qui sont à l'origine de ce projet-là, faites en sorte qu'il soit au moins... sans être à la hauteur d'un triple A, c'est pas ce qu'on lui demande, tu vois, mais qu'il soit propre.
Oui,
et qu'il soit à la hauteur de la réputation de ce gars-là, parce qu'il mérite tellement mieux, quoi, ce mec. Bref. Allez, je vais m'arrêter là.
Calme-toi.
On va s'arrêter là pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Oui. Avec d'autres personnages.
Voilà, c'est ça. Allez, ciao à tous.
Salut.